Adam Jones à Dallangham est devenu l'un des endroits les plus branchés de Londres pour dîner en ville.
C'est qu'ils disent l'un des endroits ou le mot branché qui nous gêne?
Je veux pas que mon restaurant soit un endroit pour dîner en ville. Je veux que mon restaurant procure aux gens une espèce de... On devrait procurer des orgasmes culinaires. À quand remonte ton dernier orgasme, disons, intéressant?
Il faut absolument que j'évite de parler cuisine avec vous en public.
Les gens mangent parce qu'ils ont faim. Et moi, je veux qu'ils oublient carrément de manger.
C'est vraiment débile.
La cuisine est l'expression de ce que nous sommes. Et nous en sommes à 2 étoiles, tous les deux. C'est une critique 2 étoiles. On peut continuer à faire de la cuisine branchée, mais je vais obliger les clients à baver et à tirer la langue. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi. Plus de sel! Vite. Ça doit être du velours, hein?
D'accord.
Du velours.
Oui, chef.
Très bien. Continue.
Oui, chef.
Perds pas de temps, hein?
Chef, les oignons.
Fais voir. Faut qu'ils fassent tous la même taille, bordel. Qu'ils fassent tous la même putain de taille.
Oui, chef.
Où on en est? Ça va? Parfait, glaçage.
Oui,
glacez,
oui,
un par un.
Oui, chef.
Doublez les portions. Double portion.
Oui, chef.
Travaille la consistance. Épaissis-la, ajoute la crème, surveille la poêle. Tu te concentres sur ce qu'il y a dans cette poêle. Jusqu'au départ en salle, tu la surveilles.
Oui, chef.
Hein, regarde-moi. Ok?
Oui, chef.
Compris?
Oui, chef.
Tout le monde à son poste!
Oui, chef!
Mais ça n'a rien à suivre. Ouais. Ils ont fini leur œuvre.
Le plat principal, tout de suite!
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Ok! Willkommen, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, mes chers auditeurs. Bonsoir, mes chères auditrices. Et oui, tu n'es pas en train de rêver. Non, tu n'es pas victime d'un complot international, ni d'un délirium très mince, ni d'une expérience extrasensorielle. Non, tu es bien en train d'écouter Arrête ton cinéma, ATC, où es-tu connu? Et si tu es en train d'écouter cette émission, c'est que, par la conséquence... Or donc, tu es en train d'écouter les ondes positives, rassurantes, intelligentes et bénéfiques de RDWA 107.5. Et que par là même, il est inutile que je te rappelle, ô petite oreille délicate, ô cerveau sublimissime, que tu peux retrouver cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur le broadcast éternel du www.rdwa.fr, non point il n'est, puisque tu le sais déjà. Alors, mes chers amis, mes chères petites oreilles attentives, aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine. De la cuisine, non pas de Maïté, mais bien de la cuisine au cinéma. Voilà déjà le lieu de la cuisine qui est essentiel dans le cinéma, puisque évidemment c'est là que toute la famille se réunit avant évidemment que les enfants partent à l'école, que le monsieur et la madame partent au travail. Et c'est là aussi que se trouvent les couteaux. Les couteaux évidemment très bien aiguisés qui servent évidemment à se défendre quand un serial killer, par exemple, appelle chez vous et ensuite vient frapper à la porte. Tu sais, oh oui, tu sais que évidemment c'est là-bas que se trouvent les couteaux. Mais bon, c'est vrai que c'est avant tout un lieu convivial, hein, évidemment, toujours avec des grandes cuisines américaines. C'est toujours la classe, c'est rarement un dépotoir, sauf évidemment dans le cadre où on veut montrer une famille qui est évidemment, un petit peu sur la pente descendante. Il y avait, il me semble, dans le film Famille à louer avec Benoît Poulvort, où effectivement la cuisine c'est quand même pas ça quoi. Mais bon, c'est vraiment pour montrer que évidemment, là c'est, on atteint un summum, mais en grande majorité, le lieu de la cuisine, c'est quand même un lieu classe, même, voire même aseptisé, j'ai l'impression, parce que, bon, bah, après, c'est un peu le cadre du cinéma. On a l'impression que personne n'y vit, c'est toujours nettoyé. Il n'y a pas une vaisselle qui traîne, nickel, c'est, voilà, c'est énorme. Mais bon, enfin, bon, voilà, c'est quand même un lieu convivial. On a évidemment la séquence culte des tontons flingueurs, hein, pendant que les jeunes font la fête. Et bien voilà, tous les vieux sont en train de boire le fameux alcool hein, de chair à Lulu la Nantaise. Et puis, alors, on va déjà commencer par tout ce qui est documentaire. Alors, il faut savoir que, comment vous dire, la cuisine se... Enfin, il y a deux côtés. Il y a le côté de la force de la cuisine hein, et le côté obscur. Alors, évidemment, la cuisine, hein, c'est la cuisine de papa-maman. C'est la cuisine, évidemment, des artistes, hein, la gastronomie française, et internationales. Et puis, il y a le côté obscur, hein, avec évidemment la malbouffe, la bouffe industrielle. Alors là, les documentaires, en veux-tu, en voilà. Il y a ce qu'il faut, évidemment, pour nos papilles. Hein. oui, parce qu'on commence évidemment avec le cauchemar de Darwin en 2004, d'Hubert Soper. Évidemment, conséquence de l'industrialisation de la perche du Nil. Hein. Évidemment, la perche du Nil, on n'en fait pas quoi ? On n'en fait pas des cales pour les meules, mais bien de la bouffe. Hein. Voilà, dans le lac Victoria et Kenya, et qui évidemment montre évidemment tous les mauvais côtés de l'industrialisation, de la mondialisation, de tout ce qui est en sion et qui est pas sympa. Ensuite, on a Fast Food Nation, hein, de Richard Linklater. Ouais, j'aime bien. Ils peuvent pas s'appeler tous Dupont, ce serait hyper sympathique. Merci. Si tu es réalisateur et que tu as envie de commencer un film, eh ben, appelle-toi Dupont et vachement, ça va m'aider, je pense. Donc, tu es toujours sur le 107.5 et tu es toujours en train d'écouter Arrête tout le cinéma spécial cuisine. Alors donc, Fast Food Nation, en fait, c'est l'histoire d'un gérant qui est dans une chaîne d'alimentation de hamburgers et qui a évidemment un gros problème de la viande. Il y a en fait des traces d'excréments et donc il va faire toute une enquête et évidemment ça va montrer évidemment toute cette malbouffe. On a évidemment aussi le Super Size Me, hein, de Morgan Spurlock. Donc évidemment c'était le monsieur qui avait décidé de se nourrir que pendant un an que de hamburgers, hein, médicalisé tout de même, hein, le monsieur il était pas fou. Et donc évidemment avec toute une enquête là aussi sur la malbouffe. Il y a l'Eldorado du plastique en 2001 d'Arlette Girardeau et donc évidemment c'est le problème de la production des légumes dans le sud de l'Espagne, donc dans toutes ces grandes serres, ainsi qu'évidemment tous les immigrés qui sont gentiment venus travailler dedans. Oui, parce que l'immigré est gentil, il vient travailler dans des serres dans le sud de l'Espagne, donc évidemment tout ça, hein, pour que nous autres on ait nos tomates, hein, toute l'année, qu'on puisse faire notre petite spaghetti bolognaise, voilà. Et ben voilà, avec évidemment de la viande des grandes surfaces et évidemment des tomates qui viennent évidemment de serres. Voilà, donc un pléthore de quelques documentaires, hein, donc le cauchemar de Darwin, Fast Food Nation, l'Eldorado de plastique, Super Size Me, mais il y en a tout plein, j'en ai pris quelques-uns. Et puis il y a évidemment des plats qui sont presque à l'origine d'un film, hein, comme évidemment la célèbre soupe aux choux, hein, célèbre soupe aux choux de Jean Giraud. Alors peut-être les jeunes ne connaissent pas Jean Giraud, et ben c'est le monsieur qui a fait les gendarmes. Les gendarmes de Saint-Tropez, les gendarmes extraterrestres, les gendarmes, voilà. Et ben c'est lui. Alors, la soupe aux choux en 81, hein, qui est tirée d'un roman de monsieur René Fallet. Et ben oui, Fallet. Fallet, avec un F, A, 2 L et E, T. Alors, monsieur, donc Jean Giraud. Donc voilà, la soupe aux choux avec évidemment Louis de Funès, Le Claude et Jean Carmé et puis Villeray. Donc, Louis de Funès, Le Claude et Jean Carmé, Le Bombé, hein, qui sont sabotier et puisatier. Voilà, donc le monsieur qui fait des sabots, puis le monsieur qui s'entretient des puits. Eh ben oui, des puits. Et voilà, qui sont deux vieux de 70 ans qui vivent de leur retraite ainsi que de leurs 6 litres de pinard quotidien. Eh ben oui, hein, quand on est vieux, on s'occupe, hein, comme on peut. Oui, le vin avant la bière. La mise en bière, évidemment. Alors donc, le Claude et le Bombé sont évidemment tranquillement chez eux à boire leur petit pinard jusqu'à ce qu'un fameux concours de paix fasse disjoncter l'univers et qu'un extraterrestre sous les traits de monsieur Jacques Villeray, évidemment, atterrissent et se fassent nommer la denrée par ce cher Claude. Et évidemment, il va lui offrir cette fameuse choupe aux choux. Oui, la choupe aux choux. Oui, choupe aux choux. Pas la choupe à choups. Rien à voir. La choupe aux choux. Voilà, et donc évidemment l'extraterrestre va tomber en amour et leur proposer d'aller vivre sur sa planète Oxo, où on vit évidemment jusqu'à 200 ans, alors que évidemment Disons que dans leur monde normal, le glow et la bombée, évidemment, sont un peu old school, un peu rétro. Et donc, ils préfèrent finalement aller dans la planète de notre chère la denrée. Il y a évidemment aussi le film Chocolat de Lars Hallström. On reparlera de ce monsieur Hallström un peu plus tard dans l'émission. Évidemment, tiré du roman Chocolat de Johannes Harris. Hein, donc, l'histoire d'une jeune femme, Juliette Binoche, et qui s'installe en 1959. Dans un petit village lansquenet, pour évidemment ouvrir une chocolaterie à côté d'une pâtisserie. Et évidemment, le village est plutôt sectaire, hein, voire quasi religieux, et dirigé d'une main de maître par le comte de Renaud, monsieur Alfred Molina. Et évidemment, cette jeune femme va essayer de soigner les gens grâce au chocolat, puisqu'elle va leur donner du chocolat. Elle va aider une femme qui est battue par son mari. Et là, il y a en plus les gitans qui débarquent sous les traits de Johnny Depp. Eh ouais, Johnny Depp, beau gosse. Donc évidemment, toute une histoire d'amour qui s'ensuit, tout le monde est bouleversifié, et puis il me semble qu'il y a aussi Judi Dench qui joue dedans. Judi Dench, hein, c'est la fameuse M des derniers James Bond. Carrie Anne Moss, évidemment, chère Trinity. Et Peter Stromae qui fait le monsieur qui est un peu agressif avec sa madame. Donc c'est un grand film, évidemment, pour les amoureux du chocolat, vous l'aurez compris. Alors, le dernier film, évidemment, de ces films qui ont un aliment de base, c'est la fameuse attaque de la Moussaka géante. Et oui, messieurs, dames, l'attaque de la Moussaka géante de Panos H. Koutras, 1999. Et oui, alors là, un truc, mais... Somme toute normale, hein, j'ai envie de vous dire, on est en Grèce, forcément il y a de la moussaka, hein, l'aubergine, la viande hachée, forcément. Là, des extraterrestres débarquent et là, évidemment, radiation, transformation d'une moussaka innocente en moussaka dévoratrice de jeunes Athéniens. J'ai envie de vous dire... Quoi de plus normal? Non, franchement, j'ai envie de vous dire, ça peut arriver. Et oui, on est en train de tranquillement se promener dans les rues d'Athènes. Oh tiens, le piré, et bam, une moussaka géante. Et oui, c'est... Voilà, c'est-à-dire que d'habitude, on mange le plat, et ben là, le plat vous mange. C'est extraordinaire. Je vous laisse réfléchir à cette interrogation, le plat vous mange, et je vais faire un petit passage musicalesque. Alors aujourd'hui, on va faire une petite spéciale, c'est-à-dire que j'ai pris une chanson, je vais faire ma cuisine moi aussi. Mighty, si tu m'écoutes. Et on va avoir la même chanson, la même musique, pas obligatoirement les mêmes paroles. Et je vais faire la chanson originale, la chanson transformée, et puis la chanson New Generation. Alors cette chanson n'est autre que Bonnie and Clyde de ce cher regretté Gainsbourg. Donc on va voir évidemment celle de Serge Gainsbourg, celle de Serge Gainsbourg et de Brigitte Bardot. Bonnie and Clyde, en avant la musique.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, C'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Et Brigitte Bardot, évidemment, pour Bonnie and Clyde. Alors, vous êtes toujours sur les ondes bénéfiques, rassurantes et intelligentes du 107.5 et Rétibois. Et nous continuons notre émission spéciale cuisinesse. Alors, la cuisine, évidemment, que nous allons partager, puisque la cuisine est internationale et que forcément, il y a différentes façons de la faire. On va commencer par la cuisine asiatique avec deux films, Sucré Salé d'Ang Lee, hein, le monsieur qui a fait Hulk, en 94. Et puis, si vous voulez, en asiatique, il y avait aussi la série Petit Chef qui était extraordinaire. C'est un mec qui voulait devenir, évidemment, cuisinier, hein, pensez donc. Et il faisait toujours des plats de fifou. C'est-à-dire qu'il y avait toujours 42 000 ingrédients dedans, mais il y avait toujours des trucs. Tu mangeais ça et d'un coup, ah, le goût revenait. C'était des trucs de malade, comme ils faisaient la cuisine. Mais effectivement, c'est un peu ça quand même, tout de même, la cuisine. Donc, on revient à Sucré Salé d'Ang Lee. Hein. Oh, bah oui, on saute comme ça, mais on saute pas des plats. En 94, alors, donc, c'est l'histoire d'un père qui est un peu renfermé, un peu ours, hein, et qui communique surtout grâce à la cuisine, hein, puisque c'est un grand restaurateur de Taipei. Et il a trois filles. Alors, il a trois filles, hein, puisqu'il est veuf depuis 16 ans, hein, et donc il élève ses enfants. Donc, Yen, qui est une professeure de chimie, qui est légèrement un petit peu serrée, un petit peu religieux tout de même. Kien, qui est donc la businesswoman qui voudrait devenir indépendante. Et Ning, qui est la jeune étudiante qui travaille dans un fast-food hérétique. Et donc, en fait, c'est toutes ces femmes vont essayer de trouver l'amour. Et évidemment, tout se passe autour d'une table, puisque il y a toute une cérémonie du paix qui fait évidemment des plats chinois. Et là, je vais vous dire, là, on atteint carrément un degré, puisque il faut savoir que la cuisine asiatique exige les cinq sens, évidemment, donc l'œil, le regard, le goût, l'odeur et même l'ouïe, hein, puisque évidemment, il y a des plats qu'on amène et on reverse de l'eau et d'un coup, bah, évidemment, ça bouillonne, ça fait du bruit, donc évidemment, toute une grande esthétique de la cuisine chinoise. Et là, évidemment, de main de maître, ce restaurateur est talentueux. Ça presque, j'ai envie de vous dire, c'est un presque Tigre et Dragon, mais version cuisine. Parce que le mec, comme il cuisine, on a l'impression qu'il fait des arts martiaux. Et c'est aussi le cas du festin chinois de Zhu Arc. Et puis Zhu Arc, j'ai envie de vous dire, là aussi, c'est beaucoup de films de combat. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une petite frappe hein, qui décide de changer de métier et de devenir un grand maître cuisinier. Donc, il va évidemment rentrer dans un grand restaurant chinois et qui est en fait en bisbille avec un autre grand chef d'origine mongole, si je me rappelle bien. Et là, pour un fameux concours, le fameux festin chinois, hein, évidemment, le festin chinois, oh, oh, mais il y aurait donc un raccord entre les deux, c'est formidable. Bon, après les traductions, hein. Voilà, donc évidemment, là, j'ai envie de vous dire, on atteint la quintessence, puisqu'on peut rapprocher ce film de Shaolin Soccer. Alors voilà. Shaolin Soccer est au football, donc ce que le festin chinois est à la cuisine. Donc là, c'est un degré de virtuose. Ça vaut vraiment le coup de le voir. Après, c'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas un film qui va vous bouleversifier, hein, qui va vous interroger sur votre moi profond, qui va vous laisser dubitatif, interrogatif même. Non. Mais effectivement, les séquences de cuisine sont vraiment formidables. Il y a eu aussi une histoire d'un poisson géant qui ne veut pas se laisser tuer. Donc évidemment, grande séquence. Et puis on va, puisqu'on a fait de la cuisine asiatique, vous m'avez bien suivi. Ah ben moi je suis comme ça, hein. Faut que ça serve. Oui, vous remarquerez dans les comment ça s'appelle, les films sur la restauration, surtout la grande restauration, faut que ça envoie du pâté, hein. Donc là on continue. On a fait la cuisine asiatique, on a la évidemment la cuisine d'Inde, mais je sais pas. Ça va de pire en pire. Hein. Je crois qu'on va demander à changer l'animateur. Donc, avec le film Lunchbox hein, de Ritesh Batra en 2013, qui se passe à Bombay ou Mumbai, hein, c'est comme on veut. Donc, à Mumbai, il faut savoir que chaque jour, il y a plus de 2000 gamelles, qu'on appelle des dabas, qui sont livrées par des dabawala. C'est le daba, voilà. Ok, bon. Excusez-moi, humour d'animateur. Donc, les dabawala, évidemment, vont livrer ces fameux dabas, puisque c'est madame qui a cuisiné et qui amène le plat jusqu'à monsieur pour qu'il puisse manger sur place. Mais un jour, le repas préparé par il, de la classe moyenne hindoue plutôt conservatrice, va arriver sur la table du vieillissant et solitaire et chrétien Sayan. Et là, va s'en suivre une liaison plutôt, comment dire, virtuelle, hein, puisqu'elle aura lieu autour de cette lunchbox. Et ils vont s'envoyer des mots et de retour et de concert, et jusqu'à ce que ben, ça commence à menacer le véritable couple, hein, puisque madame est mariée. Puisqu'elle envoie un plat à son mari, si elle était toute seule, elle n'enverrait pas un plat à quelqu'un d'autre. Enfin, réfléchissez un peu, nom de Dieu. Et voilà, donc, mais effectivement, là aussi, très belle cuisine indienne. Franchement, c'est très excellent comme film. Très excellent, oui, c'est très bien parlé aussi. Je vois que moi aussi, je fais ma réforme. Ah, de mieux en mieux. Ouh là là, on sent l'animateur vieillissant. Hein. Ça commence à devenir violent dans les paroles. Hein. Je pense qu'on commence à devenir semi-gravataire. Ouais. Non, mais c'est pas grave, hein. Je cotise. Hein. On cotise tous en tant qu'animateur. Oui, tous les animateurs de RDOA cotisent pour quand ils deviendront vieux et séniles. Voilà, ils iront sur RTL ou autre. Oh, c'est pas bien ça. Oh, l'attaque gratos. Donc voilà, le lunchbox, de mieux en mieux, de Rich Batra. Il y a aussi les recettes du bonheur de Lars Ahlström. Hein, vous souvenez, hein, je vous avais dit de bien vous intéresser à son nom. Lars Ahlström, donc en 2014, qui est donc l'histoire d'un jeune chef de Mumbai suite à l'incendie de son restaurant qui était tenu par sa mère et qui meurt d'ailleurs. En fait, ils vont partir en France et ils vont voguer sur leur camion. Et d'un coup, le camion lâche à Saint-Antonin-Nobleval, dans les Midi-Pyrénées. Et là, ils vont être aidés par la jeune Charlotte Lebon. Oh, magnifique Charlotte Lebon, qui se nomme dans le film Marguerite, et qui va les aider à les installer dans une bâtisse en face du Solplor, qui est en fait le grand restaurant local. Et Madame Mallory, qui est la grande responsable de ce restaurant, qui est jouée ici par Hélène Mirren, en fait, envie de les voir partir. Et c'est là que, en fait, le père, papa, décide de créer un restaurant, hein, et qui s'appellera le restaurant Mumbai. Évidemment, confrontation de la gastronomie française et de la cuisine hindoue. Alors là, évidemment, avec un mélange des genres, c'est un peu eau de bleuet, mais c'est quand même magnifique pour les saveurs, la grande cuisine française et la cuisine hindoue. Et d'ailleurs, on va décliner sur la cuisine française. Alors, il faut savoir que dans les anciens temps, je parle des années 50-60, la cuisine est surtout tenue par des comiques. Alors, faut-il voir un côté bon vivant de la cuisine française ? Je n'en doute point, mais là, on tient quand même plus, on a la cuisine au beurre avec Fernandel et Bourville, hein. Donc évidemment le côté méditerranéen de Fernandel et le côté normand de Bourville qui vont se rencontrer et lutter l'un contre l'autre pour encore une histoire de femme. Il y a aussi le grand restaurant de Jacques Besnard avec le grand Septime et qui dirige de main de maître son restaurant jusqu'au jour où un dirigeant sud-américain est enlevé suite à la mise à feu d'une grande pièce montée, voilà, avec Louis de Funès, et de nouveau Louis de Funès avec le célèbre L'aile ou la cuisse de Claude Zidi en 76, hein, avec Coluche aussi, puisque là on voit Charles Duchemin, donc, qui est un grand du guide gastronomique et qui vient de rentrer à l'Académie française et qui se trouve face à un adversaire qui n'est autre que le PDG d'une chaîne de restaurants. Et évidemment, ce monsieur décide d'industrialiser au paroxysme tout de même, parce qu'il faut savoir que la façon de faire sa cuisine, c'est-à-dire qu'on a le carcasse du poulet, il y a une pâte qui se met dessus, d'un coup, pif, ça fait un poulet. Donc voilà, et suite à l'ingestion de ce genre d'aliments, eh ben, notre cher Louis de Funès va perdre la saveur, mais il sera sauvé par son fils qui, en secret, ma foi, a travaillé dans un cirque et qui va devoir aider son papa. Il y a de nouveau plus actuel, là on rentre évidemment tout de suite dans plus une gastronomie, mais je pense qu'évidemment avec Bernard Loiseau, Marc Véra et bien d'autres, Bocuse, les trois gros à Rouen, évidemment là on rentre dans une industrialisation du bon côté, mais c'est-à-dire qu'évidemment là les grands chefs sont devenus des produits et là évidemment le cinéma les voit d'une autre manière. On n'est plus dans un rapport bon enfant, on est plutôt dans un rapport économique et évidemment d'excellence, puisqu'on a aussi Les Saveurs du Palais en 2012 de Christian Vincent qui raconte l'histoire d'une cuisinière, Catherine Fro, donc Hortense Laborie, qui travaille dans son Périgord natal, et à sa grande surprise, elle est nommée par le président de la République himself au palais pour être responsable personnel du palais de l'Élysée, donc la cuisine du président et de tous ses invités, avec un célèbre président qui n'est autre que Jean d'Ormesson. Et là, j'avoue que tout de même, comme président, Jean d'Ormesson, ça doit être quelque chose. Alors là, évidemment, Catherine Fraud doit combattre évidemment les anciens, hein, et mettre sa patte, puisque c'est quand même une cuisinière qui a de la poigne. Et là, j'avoue qu'effectivement, là, on atteint un degré de cuisine qui marque évidemment la gastronomie française. On a Vatel, évidemment, en 2000 de Roland Joffé avec Gérard Depardieu, Uma Thurman et Tim Roth. Alors là, pour l'occasion, on atteint évidemment la grande cuisine, mais on est en 1671. Et Vatel est donc le célèbre intendant du prince de Condé, et celui-ci est, comment dire, légèrement ruiné, hein, il est plutôt au bord du précipice, et là, il se voit confier par Louis XIV une campagne contre les Hollandais. Alors évidemment, on invite le roi, mais pour inviter le roi, il faut quand même que ça claque au château de Chantilly. Oui, parce que tout se passe au château de Chantilly. Oui, il ne faut pas que ça tombe, la Chantilly. Une seconde de silence pour l'humour de l'animateur. Et puis donc, Vatel va évidemment avoir le destin de Condé entre ses mains. Et malencontreusement, évidemment, l'histoire est célèbre. Suite à un retard d'un poisson, évidemment, tout s'écroule et Vatel sera poussé au suicide. Alors, ce film est très excellent pour tout ce qui est cuisine de l'époque. Malencontreusement, on peut dire que le personnage de Vatel pâtit un petit peu. Oui, parce qu'on parle plus de pâtisserie que de... Non, désolé. On parle plus de des plats, de la cuisine, des histoires, plutôt que de Vatel. Je trouve ça assez dommage. Je vais faire un petit passage musicales et on va évidemment voir le second morceau. Évidemment, vous vous en souvenez, donc hein, on était toujours sur Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg. Et là, on va avoir par contre le nouveau western de M. Stoller.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est loupé à la lutte, lutte, propre comme un archiduc. Oncle Sam me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Ils sont des époques les vieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, du Kubrick et les Dalton. Sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte, c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Cheers. We'll be right back.
Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit téléchité pépite. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Modern. Sitting Bull.
Et voilà, ainsi cela, le nouveau western. Alors, on est toujours sur le 107.5 et vous êtes toujours en train d'écouter Arrête ton cinéma spécial cuisine. Et il y a un plat qui est quand même assez spécifique, plus spécifique que les autres, c'est la chair humaine. Effectivement, quelques films parlent de ça, comme Délicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet en 91, donc le célèbre personnage de Dominique Pinon se présente pour venir loger dans cet immeuble perdu au milieu de rien. Et là, au rez-de-chaussée, il y a le célèbre boucher qui l'attend parce qu'évidemment, tout le monde est en train de regarder puisque les nouveaux locataires ont de grandes chances de finir enfilés de bœuf. Très célèbre film, évidemment, Délicatessen. Et puis, il y a Les Bouchers Verts, un film danois d'Anders Thomas Jensen en 2003. Donc, l'histoire de deux frères qui, en fait, font de la cuisine. Mais ça marche pas beaucoup. Et d'un coup, il y a un accident chez eux, il y a un corps. D'un coup, ils savent pas quoi en faire. Donc, ils le débitent, ils le mettent dans ça. Et là, d'un coup, tout le monde vient voir. Et là, c'est le début de la gloire. Mais malencontreusement, le corps, et ben ma foi, il n'y en reste plus, donc il va falloir chercher de la nouvelle viande, si vous voyez ce que je veux dire. Plus anciennement, il y avait aussi Soleil Vert de Richard Fleischer en 73, hein. Donc là, l'histoire, nous sommes en 2022 à New York, dans une mégalopole de plus de 44 millions d'habitants. Non, nous ne sommes pas en train de regarder Judge Dredd, mais bien Soleil Vert. Il fait 30 degrés, pas d'ombre, et évidemment, l'eau est très très rare. Donc, l'histoire de Thorn, joué par Charlton Heston, qui est un flic, à qui on demande de faire une enquête sur l'un des dirigeants de la compagnie Solent. Et en fait, la société Solent en fait, nourrit la population grâce à des sortes de tablettes carrées de couleur jaune, orange, et la dernière, la verte, et ce qui semble être la plus nourrissante. Et en fait, Thorn va continuer sa enquête jusqu'à savoir qu'est-ce qui est derrière ces fameux soleils verts. Je ne vous dis pas, mais vu que c'est la séquence « On mange de l'humain », vous en doutez ce qu'il y avait dans ces tablettes. Et ensuite, il y a « Beignet de tomates vertes » de John Arvent, qui est en fait raconte l'histoire de l'amitié entre deux femmes, Iggy la rebelle et Ruth, la douce et remarquable cuisinière. Et là, évidemment, il y a la séquence où, puisque Ruth est poursuivie par son mari un peu violent, il se passe malencontreusement un petit accident, le monsieur décède et il faut bien, hélas, cacher le corps. Et puis il y a aussi Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street en 2007 de Tim Burton avec Sacha Baron Cohen, Johnny Depp, Alan Rickman, le regretté, Helena Bonham Carter, évidemment. Et là, c'est l'histoire d'un barbier qui décide de se venger de celui qui a brisé sa vie, qui a piqué sa femme et sa fille. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Non, mais l'animateur, je tiens à le dire. Et ce qui me fait penser, c'est que cette histoire est tirée d'un fait réel. Et oui, à Paris, il y a eu un type qui était barbier et qui arrivait que, en fait, malencontreusement, il ne faisait pas ses affaires. Donc, quelques clients malencontreusement disparaissaient puisqu'ils étaient égorgé et qu'il s'était mis en accord avec le boulanger d'à côté pour faire de petits pains de viande. Donc il s'était accordé pour évidemment avoir, et ça a été découvert puisque je crois que l'un des client avait un chien et que le chien, ben, ma foi, est resté fidèle à son maître. Il l'a attendu, il s'est mis à hurler à la lune. Là, on a commencé à enquêter et évidemment, on a trouvé le manège diabolique que ces deux compères faisaient pour gagner leur vie. Et on a décidé donc qu'il y avait un arrêté municipal qu'on avait détruit et qu'il était interdit désormais de construire sur ce lieu-dit. Voilà, donc histoire vraie, hein, le fameux Sweeney Todd. Alors donc, évidemment, la nourriture, la chair humaine, il n'y a pas que ça, évidemment. Et puis, on va venir aux petits enfants, hein, puisque les petits enfants aussi, ils ont droit à manger. Ils ont droit aussi à avoir des fines spéciales cuisines. Il y avait la célèbre tempête de boulettes géantes de Phil Lord et Christopher Miller en 2009. Et puis, il y a eu le 2, l'île des Miam Animaux. Donc, évidemment, l'histoire de Flick Lockwood, qui vit à Swallow Flat, qui est une petite île de l'Atlantique, qui est cachée d'ailleurs derrière le A d'Atlantique, si je m'en rappelle bien. Et là-bas, tout est autour de la sardine. Malencontreusement, la sardine, personne n'en mange. Et Flint décide d'inventer une machine, puisqu'il a tendance à toujours inventer des trucs n'importe quoi, des rats ailés ou des godasses plastifiées. Et là, il a décidé d'inventer une machine qui transforme l'eau en aliments, ce qui serait quand même bien pour sauver la planète. Et donc, ma foi, il crée cette machine, et comme d'habitude, ça tourne à la catastrophe. Bon, il y a une manne céleste, évidemment, les nuages désormais offrent des aliments, il suffit plus que de taper sur une machine pour demander. Malencontreusement, le maire est devenu de plus en plus gourmand, il voit dans cette machine l'espoir d'être venir le maire le plus célèbre du monde et surtout de manger à l'œil. Et ça va évidemment finir en tempête de boulettes géantes. Le second est pas mal, puisque là, Flint va découvrir son célèbre professeur, celui grâce à qui il est devenu scientifique, Chester V. Et ils vont évidemment chercher la fameuse machine qu'ils auront fait tomber dans le premier. Et là, on voit que la machine a été élevée toute seule, s'est créée toute seule. Oui, monsieur, la machine peut s'élever toute seule. Et elle a décidé de créer carrément la vie, puisque désormais, les aliments sont des êtres vivants. Et oui, on peut voir des éléphants, des poireaux aussi, des courges, enfin bon, toutes sortes d'animaux. Et évidemment, c'est assez comique, j'avoue, c'est bien fait. Voilà, c'est très bon enfant, c'est qu'à te le dire d'ailleurs. Et puis, forcément, quand on parle de cuisine et qu'on parle de dessin animé, Ratatouille, forcément, de Brad Bird et Yann Pikawa. Donc, c'est l'histoire d'un rat qui est amoureux de la cuisine et qui est en fait inspiré par un grand cuisinier qui est Gusteau, hein, qui en fait était inspiré de Bernard Loiseau et qui va aider un jeune apprenti, Alfredo Linguini, qui n'est autre finalement que le fils caché de Gusteau, à devenir grand chef. Malencontreusement, il y avait un type qui avait repris l'affaire de Gusteau et Skinner et qui décide, lui, de faire de la nourriture industrielle. Et donc, d'un coup, ce Linguini menace son affaire, d'autant plus que forcément, le vrai cuisinier n'est autre que le rat. Et il faut savoir que ce qui est. Puis il y a aussi le personnage évidemment de Ego, le critique culinaire, qui finalement avait poussé Gusteau presque à mourir, puisque en fait, Ego ayant fait une critique acerbe sur le restaurant de Gusteau, puisque la démarche de Gusteau, finalement, c'était de dire que tout le monde était capable de cuisiner. Or, Ego dit que non, il n'y a qu'une élite qui a droit à vraiment bien cuisiner. Et donc, ce qui est quand même assez paradoxal, puisque finalement, vu que Gusteau avait été pris sur le personnage de Bernard Loiseau, et que Bernard Loiseau, ayant lui-même perdu une étoile, va évidemment se suicider. Donc voilà, il y a un rapport entre les deux qui est assez curieux. Voilà, alors là aussi, hein, c'est aussi très excellent, puisque en fait, finalement, Ratatouille étant un rat, et ben ma foi, il a droit à avoir plus d'odorat que nous autres humains, et c'est grâce à ça qu'il peut faire des cuisines et qu'il peut évidemment pousser Linguini à être vraiment un grand chef. Et puis, je vais vous passer mon dernier morceau, et puis on va s'attaquer à la ligne droite, les films américains, puisque évidemment les Américains désormais parlent de Cuisine. Donc je vais vous passer le dernier morceau, et que ça tombe bien puisque c'est la version un peu plus américaine. Et là c'est Lulu Gainsbourg, hein, donc la descendance gainsbourgienne, avec notre chère veuve noire, et oui, Scarlett Johansson, puisque désormais Scarlett Johansson, comme pas mal d'acteurs américains finalement se lancent, hein, même Iron Man s'est lancé dans la carrière musicale, et oui, Robert Downey Jr. chante, et oui mesdames, Bruce Willis aussi, hein, et puis Kevin Costner, mais bon ça j'avais fait déjà une émission là-dessus, vous n'avez qu'à la rechercher. Donc Lulu Gainsbourg et Scarlett Johansson, Bonnie and Clyde en version anglaise et en version française, et oui parce que Scarlett Johansson, voilà, elle décide qu'elle parle que en clé, c'est pas bien ça. Ouh.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il a vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. When I first met Clyde in days gone by, he was a loyal, straight and faithful guy.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Lost lovers and cold-blooded killers.
C'est pas drôle mais on est bien obligé.
To shut down all those screaming monkeys. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter.
When a bank's blown up for big money.
Pour la police ça ne fait pas de mystère.
It has to be Clyde Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger.
Anywhere, downtown or down in the valley.
Dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
Rattling gun battles ain't long coming back. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
They may cut me open like a doe. I, Bonnie, only fear for Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Emmanuel Gainsbourg et Scarlett Johansson. Vous êtes toujours sur le 107.5, Arrête ton cinéma, et on parle de la cuisine au cinéma. Alors là, on a fait l'asiatique, on a fait l'Inde, on a fait forcément la France, et là, les États-Unis avec trois films. Burnt, à vif, hein, version française, de John Waltz, qui est sorti dernièrement. Donc, l'histoire d'Adam Jones, hein, joué par Bradley Cooper, qui, en fait, à l'époque, avait une double étoile, et puis qui a complètement pété les plombs, qui est devenu junkie, qui a claqué, enfin, qui a mis tout le monde, tous ses amis dans la merde, on peut bien le dire, et qui, au bout d'un million d'ouvrages d'huîtres, oui, bah il y a des gens comme ça, hein, qui se fustigent comme on peut, qui se fouettent aux orties, bah lui, il ouvre des huîtres, bah voilà, c'est son truc, hein, c'est bah, voilà, oui, c'est une belle réplique, hein. Bah, voilà. Non, bah ça explique tout. Et donc il décide d'arriver à Londres et de gagner une troisième étoile. Et là, il va retrouver un de ses amis qui est secrètement amoureux de lui, hein, et qui joue ici par Daniel Brühl, hein, qu'on avait découvert dans Goodbye Lenin. Et il va donc chercher des cuisiniers qui vont pouvoir l'aider, une femme. Qui, évidemment, va y avoir une histoire d'amour, c'est grand classique, un de ses anciens amis, Omar Sy, pour créer un restaurant. Et ça lâchait. Alors, malencontreusement, comme il a quand même un passé, j'ai envie de vous dire, de junkie, d'être instable, il est obligé par la direction de suivre une psychiatre qui est jouée ici par Emma Thompson. Et il va aussi avoir évidemment un adversaire, Matthew Rhys, qu'il a toujours considéré, enfin Matthew Rhys l'a toujours considéré comme étant excellentissime comme cuisinier. Et là, on va vraiment atteindre un degré de cuisine qui est quand même assez merveilleux, moi je trouve, hein, dans la façon de voir comment on gère une équipe. Et d'ailleurs, le grand problème de ce Adam Jones, c'est qu'évidemment, lui, il veut finalement travailler tout le temps en solo, alors que non, dans une cuisine, on travaille en équipe. Ça, évidemment, sans grand défi, puisqu'évidemment, histoire d'amour, problèmes financiers, puisqu'il a eu un petit peu des démêlé avec d'anciens camarades qui lui fournissaient sa farine. Donc voilà. Et donc non, moi j'ai trouvé vraiment ce film assez excellent. Voilà. Après, les gens me diront ce qu'ils en pensent. Mais moi, je le trouvais assez bien. C'est comme le film d'ailleurs Chef de John Farrow, qui est l'ancien. Alors John Farrow, si vous voulez, c'est le garde du corps d'Iron Man. Voilà, hein, si vous voulez. Et d'ailleurs, Robert Downey Jr. joue dans le film, puisqu'il joue le nouveau mec de son ex. Vous avez bien suivi, le nouveau mec de son ex, qui va d'ailleurs l'aider financièrement. Puisqu'en fait, Karl Kasper, John Farrell himself, est renommé à Los Angeles. Mais malencontreusement, un critique qui avait loué son talent à ses débuts revient dans son restaurant et trouve qu'en fait, finalement, monsieur stagne, monsieur ne fait plus rien d'original. Et Karl va pousser son patron à changer le menu. Malencontreusement, le patron qui est joué ici par Dustin Hoffman dit que non, puisque finalement tout marche, il n'y a rien à chercher. Donc Karl démissionne, hein, suite évidemment à un grand combat sur Twitter, puisque évidemment Karl ne savait pas comment marchait Twitter, il croyait que bah, c'était juste une petite conversation finalement en toute innocence et en toute intimité. Puis finalement non, tout le réseau est au courant de ce combat entre Karl et ce critique, et Karl va rencontrer donc son ex-femme, et puisqu'évidemment ils ont un enfant ensemble, et vu qu'il était chef, il ne pouvait pas tellement s'en occuper, que maintenant qu'il a du temps, et ben, il va pouvoir s'en occuper. Et elle décide qu'en fait il faut qu'il retrouve ses bases. Et donc Karl, avec un de ses amis et son fils, qui est tout petit, hein, le fils, ils vont aller en Louisiane récupérer un camion et ils vont faire de la cuisine de rue. Et donc ils vont faire le voyage quasiment initiatique entre la Louisiane et Los Angeles en rencontrant évidemment des gens du cru, de façon de faire. Il y a un moment où il rencontre des gens qui font une viande qui cuit toute la nuit dans des fours. Bah, c'est excellentissime. Et grâce évidemment aussi au réseau Internet, et ben, au début, il commençait un petit peu chichement. Et grâce à l'Internet que le fiston va mettre en place, et ben, ils vont devenir de plus en plus connus. Et même les clients les attendent au lieu dit pour avoir leur nourriture. Et voilà, bon. Après, ça finit. Bon, voilà, c'est un film qui finit bien. Faut pas non plus s'attendre à... Voilà, c'est excellentissime. Mais bon, moi, j'ai bien aimé cette façon de voir la cuisine, hein, avec un petit côté évidemment moderne avec l'Internet et puis le côté évidemment proche du client. Et puis, il y avait le dernier film américain. Mais bon, il y en a eu d'autres. Hein, c'est juste mes partages. Mais c'est Mange, Prix et M de Ryan Murphy, hein, donc c'est l'histoire d'un auteur new-yorkais, Elizabeth. Voilà, c'est la belle, la grande, la sublissime Julia Roberts, qui a évidemment tout pour être heureuse. Malencontreusement, elle sent qu'elle aussi, elle piétine et elle décide de divorcer. Malencontreusement, ça se passe pas super bien, elle a une petite relation, mais... qui vraiment tourne à l'acide, et donc elle décide de voyager. Elle va aller à Rome, découvrir la cuisine italienne, la façon de vivre italien, puisqu'évidemment la cuisine et la façon de vivre sont liées. Et elle va aussi aller dans un ashram en Inde, et puis finir à Bali, où elle va rencontrer Felipe, qui est joué par Javier Bardem, mais pas la version avec la coiffure Playmobil et tendance à dessoudre les gens. Non, là c'est plutôt le côté beau gosse. Mais voilà, donc là évidemment c'est un grand grand livre à l'origine, évidemment Mange, Prie et Aime, donc voilà, c'est-à-dire que quelque part manger c'est aussi, puisque on le voit aussi dans ceux qui suivent la série Kaamelott, ils sont toujours en train de manger pendant qu'ils font leur série, à se demander comment ils n'ont pas pris des kilos d'ailleurs là-dedans. Mais voilà, parce que pour certains évidemment la façon de manger induit ce qu'on est, hein, aime, tu es ce que tu manges, comme diraient certains. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de documentaires désormais sur la malbouffe, parce que c'est devenu évidemment une industrie et que par là même on nous tient un petit peu par l'estomac. Et puis je voudrais finir cette émission sur la cuisine, hein. Désolé, je bouffe mes mots, mais dans une émission où on parle de bouffe, quoi de plus normal finalement, avec le film La Grande Bouffe, hein, de Marco Ferreri en 1973 avec Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli et Hugo. Donc l'histoire de quatre types bourgeois, hein, qui évidemment s'appellent Marcello, Philippe, Michel et Hugo. Hein, le réalisateur est allé chercher loin pour les noms. Donc l'histoire évidemment de Hugo qui décide en fait de se suicider en bouffant. Et puis donc Philippe qui est un magistrat et qui vit avec sa nourrice, et malencontreusement il ne peut pas rencontrer d'autres femmes puisque sa nourrice ne veut pas, et qu'il y a quand même tout de même des rapports sexuels avec sa nourrice. Voilà, Marcello qui joue évidemment le beau gosse, hein, évidemment le style un peu air italien, tu vois, le beau gosse, l'italien quoi, et qui malencontreusement se trouve impuissant, donc il est carrément détruit. Et puis le dernier, Michel, qui est un producteur de télévision, qui est un petit peu efféminé, divorcé et surtout fatigué de sa vie monotone. Et donc les trois hommes décident de se réunir et de manger jusqu'à en mourir. Ils vont rencontrer une femme, là, une institutrice qui est venue pour voir, je ne me rappelle plus, un arbre, il me semble. Et donc elle va venir avec eux. Et donc ils vont manger, ils vont décider d'appeler d'autres femmes. Il va y avoir des prostituées qui vont débarquer. Malencontreusement, à un moment, les chiottes explosent, il y a plein d'excréments. Enfin, les prostituées partent les unes après les autres. Et il ne reste plus qu'Andrea qui va aller jusqu'au bout. Et donc les gens meurent petit à petit. petit. Et voilà, donc finalement, hein, la grande bouffe, alors grande évidemment caricature de la société bourgeoise par Ferrari, qu'on pourrait presque même nommer le Buñuel italien. Donc voilà, donc c'était pour moi quelque part un peu, je dirais pas la quintessence, faut pas non plus, mais voilà, finalement, bouffer jusqu'en mourir, la grande bouffe de Ferrari. Donc j'espère, oh mes chers auditeurs, oh mes chers amis des ondes, que cette émission vous aura plu et que vous, évidemment, vous allez encore et toujours au cinéma et que vous pouvez même faire des petits plateaux récents avec votre amoureuse ou entre amis en regardant des films. C'est obligatoire, je dirais même que c'est nécessaire.
Seulement, le tout venant a été piraté par les baumes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Ça va rajeunir personne.
Elle nous l'a sauvé.
Sauvé? Voilà.
Tiens, vous avez sorti le vitriol?
Pourquoi vous dites ça?
Et pourtant, on est honnête.
Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires.
Allez,